France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. La science du changement de camp. Épisode 2, l'énigme Albertini. Le parcours de Georges Albertini est d'autant plus fascinant qu'au premier abord, on n'en comprend absolument pas la logique. Voilà un homme qui s'est dit toute sa vie viscéralement de gauche, mais dont l'ennemi numéro un semblait être le communisme, bien davantage que l'extrême droite, au point qu'il n'a pas hésité à la rallier cette extrême droite et à rentrer activement dans la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Autre mystère, Albertini était un syndicaliste. Il avait exercé un rôle considérable à la CGT. Son objectif numéro un avait même été pendant longtemps de renverser le capitalisme. Or, c'est comme lobbyiste pour la banque d'affaires Worms qu'il a travaillé durant des années et il a passé toute sa vie après-guerre dans les plus hautes sphères de l'État, là où fraient les patrons et les puissants, autrement dit, très loin des citadelles ouvrières et du petit prolétariat. Son parcours pose donc trois questions. D'abord, avons-nous affaire avec lui à un spécimen de girouette opportuniste de premier ordre? S'il ne s'agit pas d'une girouette, sommes-nous face à une personnalité cohérente, certes, mais dont la cohérence nous échapperait? Enfin, comment se fait-il qu'Albertini ait réussi à se maintenir dans les cercles du pouvoir alors qu'il avait été frappé d'indignité à cause de sa collaboration avec l'Allemagne nazie? Pour tenter de répondre à ces interrogations, nous allons chercher des indices sur les étagères de la salle des archives.
Une remarque d'abord. Au cours de nos entretiens, vous en souvenez certainement, nous avons déjà croisé Georges Albertini. Quand j'ai évoqué, par exemple, l'histoire mythique de la synarchie.
Ouais, ses liens vrais ou imaginaires, hein, avec ce gigantesque complot d'avant-guerre, celui de la cagoule.
Ah, un complot bien réel, celui-là. C'est exact. Mais je vous ai aussi parlé d'Albertini lorsque j'ai ouvert le dossier du mystérieux assassinat d'un militant d'extrême droite.
François Duprat.
Oui. Ouais. Pour aussi ajouter que Georges Albertini n'est pas tout à fait étranger à la création et à l'histoire du SAC, cette officine gaulliste devenue au fil des ans un repère d'hommes de main et de gants de serre. Enfin, j'en aurais provisoirement terminé avec ces rappels quand j'ai retracé l'itinéraire d'Irving Brown, cet agent de la CIA infiltré en France et qui a joué un si grand rôle dans notre pays. J'aurais également pu évoquer ses relations avec Georges Albertini.
Et bref, cet homme était partout, là.
Et il ne s'agit peut-être que de la partie visible de l'iceberg, mais n'allons pas trop vite. J'ajoute, avant d'entrer dans le vif du sujet, que Georges Albertini, qui a fréquenté le gratin du monde politique pendant plus de 30 ans, avait une particularité. Jour après jour, il a pris des notes sur ses rencontres et les services petits et grands qu'il rendrait à tout ce beau monde. Or, on ne sait pas ce qu'est devenu ce trésor composé de milliers de fiches manuscrites.
Et vous pensez qu'il réapparaîtra un jour?
Franchement, je n'en sais rien. Mais ça serait une vraie manne pour les historiens.
Alors, entrons dans le vif du sujet comme vous le proposiez.
Volontiers.
Le vif du sujet, comme le dit Patrick Penaud à Monsieur X, c'est d'abord le parcours de cet enfant du monde ouvrier, né en 1911, dont la mère était femme de ménage et le père cheminot. Élève très brillant, Albertini entre à l'École normale supérieure et devient professeur d'histoire. Son parcours politique, il le débute dans l'entre-deux-guerres. Il croit, comme on l'a dit, au syndicalisme et à la nécessité de transformer la société en profondeur pour la débarrasser du capitalisme. Socialiste convaincu, nourri par un pacifisme viscéral, il se fait rapidement remarquer pour son éloquence et sa capacité à fédérer autour de lui. Et le voilà bientôt membre influent des socialistes modérés de la SFIO, grand militant d'une justice sociale universelle. À cette époque, Albertini est tout ce que l'on attend d'un idéaliste, inflexible dans ses convictions, intransigeant sur son rejet de la guerre et du capitalisme, pas du tout l'image d'une girouette. Frédéric Charpie, vous êtes écrivain et documentariste, vous avez notamment beaucoup travaillé sur l'extrême droite française et vous signez le chapitre consacré à Georges Albertini dans l'ouvrage « Changer de camp » des éditions Novice. Alors le personnage trouble que décrit Monsieur X dans l'archive de France Inter qu'on vient d'entendre fait un peu froid dans le dos. Est-ce que c'est vraiment le portrait d'Albertini comme vous le voyez, ce personnage qui trempe un peu dans tous les mauvais coups, qui détient des secrets sur à peu près tout le monde?
C'était quelqu'un effectivement de bien informé, mais
Il était bien informé, en particulier grâce, dans un premier temps, parce que c'est quelqu'un qui se construit au fur et à mesure des périodes et des situations qu'il va rencontrer. Par exemple, la guerre, c'est une opportunité incroyable pour lui, parce que c'est quelqu'un d'important, de très important sous l'occupation. Et il a écopé d'une peine, si je veux dire, très légère, quasiment symbolique à la fin de la guerre, alors qu'il est le bras droit de Marcel Déa, qui est l'une des chevilles ouvrières de l'ultra-collaborationnisme en France, sous l'occupation.
Georges Albertini est mort en 1983, il avait 72 ans, donc il aurait eu absolument le temps de donner des entretiens à la radio et d'expliquer au fond son parcours sinueux, de s'expliquer sur ses changements de corps. Et pourtant, il n'en a rien fait, Frédéric Charpier. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle il a été si discret ?
D'abord, il faut se replacer dans les contextes, les contextes. Bon, d'abord, c'était, il sait qu'il a un passé collabo qui est pas du tout un passé insignifiant. Pendant très longtemps, avoir été un collabo, c'était pas bien. Hein, c'était pas bien vu en France.
C'est toujours pas très bien vu quand même.
Oui, mais enfin, disons qu'avec le temps, bon, ils sont morts pour la plupart. Donc ça, disons que ce paramètre-là est important. Après, comme il s'est voué d'une certaine manière à une activité occulte auprès des dirigeants patronaux, pas tous, mais de certains dirigeants patronaux, politiques aussi, pas tous, mais quand même, il avait une présence qui était assez ubiquiste. C'est-à-dire qu'il était capable d'être proche des dirigeants de la SFIO, de l'époque de Guy Mollet, et en même temps d'être proche des dirigeants gaullistes. Donc c'est quelqu'un qui avait, si j'ose dire, une capacité à réunir l'ensemble, et c'est quand même lui qui a inventé quand même ce qu'on appelle le front républicain. C'est lui qui a eu l'idée de créer, c'était en 56, lors des élections, un front uni face au communisme, et donc tous les partis qui s'opposaient au Parti communiste étaient financés. Donc tout ça, c'est une activité de l'ombre, qu'il n'avait pas à exposer, il voulait pas non plus revenir sur son passé, il avait, je pense, conservé un peu une forme de, peut-être de honte, et puis de, il a réalisé aussi qu'il avait raté sa, quelque part, une carrière, hein, aussi. Donc peut-être revenir sur tout ça, comme il était effectivement un personnage un peu sulfureux, il a jamais vraiment cherché à en parler, d'autant que ce qu'il aurait pu dire aurait pu prêter à critique.
Puisqu'Albertini ne s'est pas expliqué à la radio directement sur ses agissements, eh bien nous allons passer, pour nous approcher le plus possible de qui il était, par le témoignage d'une personne qui a eu un parcours similaire au sien. Il s'agit d'un certain Michel Courage, qui a gravité autour d'Albertini et a fait son portrait au micro de l'historien Jean-Luc Barré dans une émission de France Culture de juillet 1993. Premier extrait.
Michel Courage.
C'est un personnage très séduisant, très vif, d'une intelligence extraordinaire, d'une capacité d'activité qui me stupéfie absolument. Et ne demandant qu'à être subjugué, je suis subjugué par la personnalité d'Albertini, qui est quelqu'un de tout à fait brillant, nerveux, rapide, incisif, capable de réagir dans la seconde à une nouvelle impulsion, qui est un débatteur remarquable. Et moi, je suis absolument béat devant les talents, les qualités d'Albertini.
Qu'est-ce qu'il pouvait avoir de fascinant, de séduisant, Albertini, Frédéric Charpier ?
C'est quelqu'un qui avait une histoire, indiscutablement. Il avait des capacités intellectuelles réelles. Il avait un réseau d'informateurs. Il voyait tout le monde. Hein. Il voyait beaucoup de monde. Il faisait des notes derrière, d'ailleurs, certaines je les ai récupérées. Il y a d'autres aussi. Il ne faut pas croire que les archives d'Albertini ont disparu.
Mais comment vous expliquez qu'il ait été absous comme ça après la Seconde Guerre mondiale ?
Bon, j'ai beaucoup travaillé sur lui. Et c'est un des aspects. Bon, je pense avoir bien compris. Mais bon, après, une fois que vous l'avez compris, il faut l'écrire. Et bon, c'est peut-être moins facile de l'écrire. Mais comme je connais assez bien le travail du contre-espionnage à la Libération, je m'aperçois quand même qu'il a bénéficié d'un traitement de faveur totalement inexplicable, si ce n'est par ses liaisons avec les services britanniques qui lui étaient directement apportés par Worms. Parce que Worms était directement lié au service britannique. D'ailleurs, il avait été visité dans sa prison par eux. C'est là où Albertini a eu son premier contact. Mais vous avez tous les contacts qui précèdent pendant la guerre, sous l'occupation. Voilà, donc je pense qu'il savait effectivement beaucoup de choses sur les uns et sur les autres. Mais on a décidé à un moment donné de le soutenir et de le blanchir. Alors qu'il aurait dû, si l'on en prend d'autres cas, il aurait dû être fusillé.
Nous allons bientôt entendre la voix de Georges Albertini parce qu'elle figure bien dans la salle des archives. Mais retournons voir d'abord ce que Michel Courage a à nous raconter en plus. Michel Courage qui donc se présente comme une sorte de jumeau d'Albertini dans le sens où il a parcouru le même chemin idéologique en se déplaçant de la gauche syndicale vers la collaboration.
J'accède à la
Michel Courage
connaissance politique vers 1936. J'ai 15 ans, 16 ans, je ne suis pas particulièrement en avance. Et mes premières tendances spontanées vont vers la gauche, mais je suis stoppé dans l'intérêt que je pouvais porter au Parti communiste par les procès de Moscou. C'est la première grand choc politique. Les procès de Moscou font que je ne pourrai jamais céder à la tentation du Parti communiste. Alors j'entre, je suis un peu aux étudiants socialistes, et à ce moment-là, toute une partie de la gauche est strictement pacifiste. Enfin, pense que devant la montée des périls de guerre, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est d'entrer dans la guerre. Je crois qu'Albertini a dû faire le même parcours à l'époque, bien que je ne connaisse pas, et ce qui m'a amené opposition de collaboration un peu plus tard, c'est d'abord et avant tout l'opposition à la guerre en 1939 et la constatation après l'écrasement de 1940 qu'il faudrait bien faire quelque chose avec l'Allemagne victorieuse. Je pense qu'Albertini, qui ne m'a pas fait de confidence à cet égard, avait fait à peu près les mêmes constatations à l'époque.
Frédéric Charpier, est-ce que ce parcours de Michel Courage, c'est un décalque de celui d'Albertini?
En tout cas, il dit des choses très justes. C'est très important, parce que le contexte est très important. Il dit les procès de Moscou. Moi, je dirais au-delà même le stalinisme, parce que c'est le stalinisme qui va pousser des gens à fuir vers la droite, bon, et l'extrême droite. Après, le pacifisme, c'est fondamental. Il y a un rejet de la guerre, parce qu'il ne faut pas oublier quand même la saignée de 14-18 en France, qui était épouvantable. C'est une génération qui n'avait pas de père. C'est-à-dire pas dans le sens où ils avaient personne vers qui se tourner pour parler. Qu'est-ce que tu penses d'eux, etc. Donc ça, c'est très important. Après, il fait ce parcours. D'autres l'ont fait. Ils ne sont pas tous arrivés au même résultat. Mais c'est indiscutable que ces deux paramètres, le stalinisme, et j'ajouterais la guerre d'Espagne aussi, qui est venue renforcer cette répulsion vis-à-vis du stalinisme.
Pourquoi il pourrait y avoir aussi une répulsion vis-à-vis de Franco?
Oui, mais vous avez beaucoup de gens à l'intérieur du mouvement trotskiste, prenons l'exemple du mouvement trotskiste, qui ont, pendant cette période-là, regardé comment le NKVD et les services, ou le GPU en Espagne, pendant qu'on devait se battre, on aurait dû se battre exclusivement face aux franquistes, comment ils ont liquidé leurs opposants. Et vous avez des gens qui ont commencé à glisser à ce moment-là, y compris dans l'entourage même de Trotsky, de la 4e internationale française. Je pense à quelqu'un comme Rosenthal, qui était un avocat, mais d'autres. Des gens ont colliné, etc. Il y avait plein de gens qui ont glissé du trotskisme ou vers quelque chose de beaucoup plus critique et qu'on va retrouver dans la nébuleuse Albertini après-guerre.
Mais Albertini, que pensait-il, selon vous, de l'idéologie nazie?
Bon, moi, il y a quelques années, on m'a ouvert le dossier Albertini qui existait donc au renseignement à Paris, à la préfecture de police. Comment il se définit? Il se définit comme ça, lui. Alors, est-ce que ça voulait dire qu'il
se définit comme
un national-socialiste? Alors, est-ce qu'il l'entendait au même titre qu'un Allemand aurait pu l'entendre à l'époque? Moi, là, je ne veux pas rentrer dans des finesses comme ça. Le fait est qu'il était inscrit dans cette logique de la collaboration extrémiste. C'est pas une n'importe quelle collaboration. C'est pas Vichy. Albertini, c'était pas Vichy.
C'est plus que Vichy.
Ah ben oui, c'était Berlin.
Est-ce que vous diriez qu'il était également antisémite, Albertini?
Bon, il a écrit quand même une petite brochure qui est introuvable, mais que j'ai, et que j'ai lu, évidemment, sur le parti de la guerre. Alors, c'est intéressant, parce que toute la rhétorique là-dedans, le parti de la guerre, on aura compris, c'est à ce moment-là, c'est essentiellement le parti juif qui veut faire la guerre. D'ailleurs, au sein même, à l'intérieur même de la SFIO, il y avait des gens qui disaient que Blum voulait faire la guerre à l'Allemagne nazie pour épargner les juifs sudètes, par
exemple.
Donc
ça paraît assez antisémite.
Ça paraît antisémite. Mais l'était-il comme un rebatté? ou un Streicher, je n'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que dans cette chose qui s'appelle l'antisémitisme, il y a peut-être des paliers et que peut-être Albertini n'était pas au sommet du palier.
Autre jumeau idéologique de Georges Albertini, un homme politique, Marcel Déa. Lui aussi, il est né dans un milieu modeste et il a milité à gauche à la SFIO. Mais il est exclu du parti en 1933 à mesure que ses idées se font de plus en plus droitières et nationalistes. Grand pacifiste, il cherche à s'opposer à l'entrée en guerre contre l'Allemagne et puis, une fois la guerre perdue, il s'engage fermement dans la collaboration. À la Libération, il aura moins de chance qu'Albertini. Exilé et recherché pour trahison, il va vivre dans la clandestinité et décéder en Italie en 1955, dans la misère et sous une fausse identité. Écoutons sa voix.
La France n'entre pas dans le grand courant continental. Que si elle n'est pas réchauffée à la chaleur de la communauté européenne, que si son sang un peu tiédi et fatigué n'est pas rajeuni par l'afflux du sang des autres peuples, que s'il n'y a pas cette osmose, s'il n'y a pas cette graisse humaine, s'il n'y a pas cette espèce de transfusion de sang, la France, en effet, ne sera pas capable de guérir. Dans un certain nombre pour jurer que côte à côte, coude à coude et cœur à cœur, avec les autres partis révolutionnaires de la nouvelle Europe, nous saurons bâtir le monde nouveau et qu'alors, nous en ferons représentants par notre effort et par notre volonté tout ce qui mérite de vivre. Dans la tradition française, dans le génie français, nous inoculerons à l'Europe de demain ce virus magnifique qu'a représenté la France à travers l'histoire. Nous saurons faire revivre notre pays dans la grandeur de son génie et de sa pensée.
Ce que vient de dire Déa sur la révolution européenne et l'idée que la France se régénérerait dans une alliance avec l'Allemagne, au fond, Albertini, son disciple, son ami, pourrait le dire aussi.
Oui, ça c'est un autre paramètre qui est très important, c'est la construction européenne, si j'ose dire, la vision européenne, la structuration de l'alliance avec l'Allemagne autour de l'Europe, mais avec l'Allemagne comme moteur. Évidemment, hein. mais c'est vrai que c'est chez eux c'est très important. D'ailleurs, il suffit de voir à l'époque tous les groupes qui se réclament de l'Europe, de la jeune Europe, des groupes d'influence des uns et des autres. Donc pour eux, effectivement, le moteur c'est l'Allemagne nazie. Et puis la France, effectivement, pour se redresser surtout, c'est surtout ça, pour retrouver un rôle premier plan, sans parler de tous les... Quand même, il faut pas non plus oublier que c'est des gens qui ont des carrières en route. Hein. Déa, il rêve d'être le chef du gouvernement, il va comploter pour faire tomber Laval, il va comploter sans arrêt, il est en guerre permanente avec Doriot. Hein. Donc c'est des gens quand même qui poursuivent à ce moment-là des carrières. Donc pour eux, ils voient aussi l'Allemagne. Il faut pas oublier que c'est des gens qui, quand ils parlent, hein, ils parlent en tant qu'être soumis. Et ils sont soumis à, quand même à l'hégémonisme nazi.
Et donc Albertini rejoint le mouvement de Déa, le Rassemblement National Populaire, ouais, dont il a été le numéro 2, ce RNP dont le logo était d'ailleurs une flamme bleu-blanc-rouge, qui était un parti qui voulait donc notamment unir l'Europe sous l'égide du nazisme, comme vous le disiez à l'instant. Comment est-ce qu'on peut dire cela en ayant le parcours d'Albertini, c'est-à-dire en ayant débuté à gauche, en s'ancrant quand même dans une idéologie qui était une idéologie de gauche?
Toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on met dans la notion de gauche. Et puis, on ne peut pas limiter le processus à Albertini ou à Déa. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le même parcours. Vous savez, ce qui est intéressant, quand vous regardez la liste des gens qui ont adhéré au RNP, parce qu'elle a été reconstituée, hein, et que vous voyez les gens qui en étaient les responsables, bon, ils venaient d'abord à peu près tous de milieux de gauche, et très souvent de milieux pacifistes. Si on n'intègre pas ça, il y a quelque chose qu'on perd de vue.
Et pourquoi y a-t-il un lien entre pacifisme et le passage de la gauche vers l'extrême droite?
C'est-à-dire que c'est une évolution, je dirais presque plus psychologique que politique. Prenez l'antifascisme. quand on crée le ça s'appelait comment le comité antifasciste, je me souviens, le nom m'échappe, en 34, après les événements du 6 février, on va créer un comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Voilà, mais Albertini en fait partie. Il y a plein de gens de gauche qui, évidemment, en font partie à ce moment-là et qui vont se rallier à la collaboration.
Alors, quelle cohérence ?
Mais la cohérence, c'est en 40, en juin 40. Qui est capable de dire ce qui se passera en juin 44 ? Est-ce que quand vous perdez, comme on perd, comme la France a perdu la guerre en juin 40, est-ce que vous vous dites, bah, c'est pas grave, le 6 juin 44, les Américains vont débarquer, qui, je vous le rappelle quand même, vous le savez bien sûr, mais il faut le rappeler, en juin 40, ne sont pas en guerre avec l'Allemagne.
Donc ça veut dire que c'est
non plus,
de l'opportunisme que ce changement de camp.
Du défaitisme aussi. Et n'oubliez pas que même du côté de certains vichistes ou de futurs collabos jetés en prison après-guerre, bon, il y avait une gauche péténiste. Et ils sont les premiers d'ailleurs à rappeler que le PPF, c'était des gens de Doriot qui venaient pour l'essentiel du Parti communiste. Le RNP, pour l'essentiel, ils venaient du Parti socialiste, etc. Donc je veux dire, voilà, c'est pas un phénomène limité.
Le travail et les travailleurs sont au centre de la vision du monde d'Albertini. Voilà sans doute une autre cohérence du personnage qui explique que ses volte-face n'en sont en réalité pas totalement. Car d'une certaine façon, s'il a changé de camp en politique, il n'a pas abandonné l'idée de mettre le travail au-dessus de tout. C'est cela qui compte le plus pour lui. Et c'est sur ce critère qu'il adhère à une idéologie populiste qui se présente comme étant au service des masses laborieuses. Pour preuve, on retrouve tous ces éléments dans un discours que nous avons retrouvé dans la salle des archives. Il date du 20 avril 1944. Et il enjoint les travailleurs à se mobiliser pour le 1er mai à venir.
La France ne doit pas se dérober aux devoirs européens. Elle doit donc faire l'effort maximum pour que sa force de travail coopère efficacement à la défense de l'Europe, menacée par le bolchevisme à l'Est et la ploutocratie capitaliste à l'Ouest. Mais ce devoir doit être accompli dans la justice. Jusque-là, il s'en faut qu'il en ait été ainsi. Et l'on a trop vu de jeunes oisifs rester en France, planqués ici ou là, tandis que d'anciens combattants de l'autre guerre ou des pères de familles nombreuses partaient en Allemagne. Ces injustices doivent cesser. Cela n'est possible qu'à la faveur d'un grand effort national de la jeunesse. Cet effort doit être fait et Marcel Déa s'en préoccupe activement. Aujourd'hui, j'ai tenu à vous dire clairement ce qu'il veut. Les travailleurs, les fidèles du mouvement ouvrier, les militants syndicalistes, que je connais bien pour avoir été des leurs, ne peuvent pas ne pas sentir que le ministre du Travail est un socialiste pour qui la révolution n'est pas une formule, mais une foi. Et c'est pourquoi, m'adressant à eux, à la veille du 1er mai, je les convie à assister en foule aux manifestations organisées à Paris et dans les grandes villes de province à l'occasion de la fête du travail.
Un commentaire sur cette archive, Frédéric Charpier.
Bon, la date, c'est avril 44. C'est intéressant parce qu'à la même époque, c'est-à-dire qu'on est au seuil du débarquement allié, il y a un revirement, un retournement sur les fronts, à peu près tous les fronts, que ce soit en Italie, en Russie, etc. Il avait besoin d'apaiser ses troupes, leur faire croire qu'il y avait encore un avenir radieux qui les attendait. C'est ce qu'il explique en permanence à ses cadres.
Dans l'archive, Albertini oppose la ploutocratie capitaliste à l'Ouest, c'est-à-dire le gouvernement par et pour les plus fortunés, et le bolchevisme à l'Est. Bon, c'est pas tout à fait sûr que les nazis n'étaient pas des ploutocrates. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette expression-là ?
Non, mais ça, si j'ose dire, c'est la langue de bois. Il faut jamais perdre de vue, même quoi qu'on pense de cette langue de bois, parce que ça reste une langue de bois. Donc il y a des conventions pour parler de l'Occident juif, hein, évidemment. On parle de plutocratie, on parle des banques, et puis on parle aussi du bolchevisme juif aussi, remarquez, parce qu'on peut aussi tout agréger. Donc il y a une sorte de langue de bois qui sert un petit peu à tout en même temps. Donc c'est plus le schématisme. Remplit son rôle, là vous avez, et tout ça, ces deux extrêmes, parce que ce sont des extrêmes, se réunissent, donc se forment le seul ennemi pour nous, voilà.
À la libération, Albertini est condamné à 5 ans de réclusion pour intelligence avec l'ennemi. C'est là qu'il fait une rencontre inespérée pour lui, celle du banquier Hippolyte Worms, homme d'affaires puissant et influent qui va changer la suite de sa vie. Voici un extrait du journal de prison d'Albertini, dans lequel il réécrit l'histoire de son passage derrière les barreaux.
Dans ma cellule, je retrouve Worms et Laborde. Nous parlons longuement. Je dors mal, excitation. Ce matin, je me lève tôt pour préparer une note pour les témoins que le juge va faire entendre à 3. Je la donne à Fro, qui vient à 8h45 et s'en va 3 heures plus tard. Longue conversation et qui me fait du bien. Il me dit qu'il est maintenant à peu près rassuré sur mon sort. Tarif, de 20 ans de détention à 20 ans de travaux forcés. C'est charmant. Il m'annonce que je ferai au moins 2 ans. Puis, quand il part, il me dit que je ne les ferai pas. Comptons que je les ferai. La surprise sera plus agréable. Pourvu que je puisse écrire et un peu lire. Il me donne des nouvelles politiques, des ordres partout et lassitude qui gagne. Optimiste quant à la lutte anticommuniste, il m'annonce qu'en avril, le journal reparaîtra et qu'il le dirigera. Capital. C'est là où Gilberte devra travailler, plutôt que n'importe où. Quand je rentre, longue conversation avec Worms, dont la mise en liberté approche. Je lui dis tout ce que je pense. Nous sommes devenus de vrais amis. Je n'oublierai jamais ce qu'il a été pour moi. Il pleut à verse depuis ce matin, Worms lit, et j'écris. Il y a comme une atmosphère de séparation et de tristesse. Comme je vais regretter son départ. Mais quelle joie pour lui, et déjà, quelle réparation.
Là, c'est un extrait du journal, mais déjà on sait que bon, le juge, d'après Albertini, trouve qu'il n'a pas de sa place en prison, qu'il n'y a rien à lui reprocher.
Alors que quand même, on sait qu'il y a des choses à lui reprocher.
Mais c'est évident. Alors là, quelque part, les dés sont peut-être déjà jetés. Il sait aussi que Worms va intervenir. Il sait que les Anglais sont déjà à la manœuvre pour ça, parce qu'ils ont déjà visité Worms en prison, ils ont discuté aussi avec Albertini.
Pourquoi les Anglais ont-ils intérêt à sauver Worms et Albertini ?
Parce que l'entreprise de Worms est très implantée en Grande-Bretagne, ils ont des intérêts croisés avec le capitalisme anglo-saxon. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un personnage de la culture économique anglo-saxonne. Il est extrêmement puissant. Donc, je veux dire, après-guerre, voilà, les Anglais ne veulent pas sacrifier Worms.
Donc, une fois libéré, Albertini ne tarde pas à retrouver un poste, puisque le banquier Worms lui trouve un travail dans sa banque. Il est ingénieur conseil, c'est-à-dire qu'il est, au fond, lobbyiste. Et là, il va travailler pour tout un tas de personnes dont on connaît très bien les noms. Pompidou, Giscard, Marie-France Garraud, Pierre Juillet, Edgar Faure. Comment est-ce que vous expliquez qu'au fond, il soit si bien intégré à ce milieu-là ?
Bon, visiblement, on voulait en finir avec cette période-là.
Tourner la page.
La réconciliation nationale, c'est pas un vain mot, c'est pas une... Voilà, on voulait que ces gens-là retrouvent une place dans la société, sans oublier que, bon, une grande partie des Français, contrairement à ce que certains peuvent croire, n'ont pas forcément collaboré, mais en tout cas, étaient dans l'attentisme complet. Donc, je veux dire, par là, c'était un peu les collabos, c'est ce qui apparaissait le plus. Il fallait que la société française se ressoude, et en plus, il y avait la guerre froide. Donc, il fallait aussi gommer toutes ces aspérités, se remettre, si je veux dire, dans un état. Et donc, il fallait oublier ça, il fallait effectivement en finir avec ces vieilles querelles, on va dire.
Si le parcours de Georges Albertini laisse le sentiment d'une conduite qui reste impunie, celui de la personne dont nous allons parler maintenant s'apparente davantage à un chemin vers la prise de conscience des méfaits de l'extrémisme. L'histoire de Marie-Madeleine Fourcade est en effet celle d'un recentrage politique pour cette femme venue des cercles de l'extrême droite française qui s'est changée en une immense résistante, puis en une femme politique, engagée pour l'Europe dans les rangs du gaullisme et farouchement opposée aux idéaux de l'ultra-droite. Comment expliquer un tel revirement ? Réponse dans le prochain épisode. C'était Salle des Archives, la science du changement de camp, une série de Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire, attachée de production Lily Corner, mixage Manon Houssin, prise de son Ludovic Auger.